Chapitre 13. Le bâtiment de l'école Saint-Jean-Baptiste ressemblait à un temple grec. Parfaitement symétrique, la façade de marbre gris était ornée de frontons triangulaires et de colonnes doriques finement sculptées. Scientia potestas est. Savoir, c'est pouvoir. Gravée dans la pierre, la devise de l'établissement s'étalait fièrement des deux côtés d'un escalier monumental donnant au lycée des allures de sanctuaire. Cette froideur minérale était atténuée par le chant des oiseaux et les rayons du soleil qui filtraient entre les feuillages orangés. Aristocratique, le lieu respirait le calme, la culture et la connaissance. Difficile de croire que l'on était en plein cœur de Manhattan, à seulement quelques pâtés de maisons des attractions bruyantes et populaires de Times Square. Pourtant, en quelques secondes, cette quiétude monacale se troubla. Une élève descendit la première les marches du perron. Puis, par petits groupes, des jeunes filles s'éparpillèrent sur le trottoir. Les rires et les cris fusaient. Malgré leur uniforme d'écolière et leur col Claudine, les discussions roulaient sur des sujets moins policés. Ça parlait garçons, sorties, shopping, régime, Twitter et Facebook. Adossée contre la selle de sa moto, Nikki plissa les yeux cherchant à repérer la silhouette de Camille au milieu de ses bataillons féminins. Elle capta malgré elle des bribes de conversation. Remarque fugitive d'une génération qui n'était plus la sienne. « Je le kiffe trop, Stephen. Je suis grave in love. Comme elle craint la prof de sociaux. Ça fait yesh. Je suis trop vénère. » Enfin, elle aperçut sa fille avec soulagement. « Qu'est-ce que tu fais ici, maman ?» demanda Camille en écarquillant les yeux. « J'ai vu que tu m'avais laissé un message. Je n'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer, chérie. Tu n'as pas eu de nouvelles de Jérémy ces derniers jours ?»« Non ?» assura-t-elle. Nikki la mit au courant de la disparition de son frère, mais, pour ne pas l'effrayer, ne mentionna ni le saccage de l'appartement, ni la découverte de la drogue. « En attendant la fin de cette histoire, papa aimerait que tu ailles passer quelques jours chez ta grand-mère. »« Mais ça va pas! J'ai plein de contrôles cette semaine, et puis j'ai prévu des sorties avec mes copines !» Nikki tenta de se montrer convaincante. « Écoute, Camille, je ne serais pas là si je ne pensais pas que tu étais en danger. »« Mais en danger de quoi? Mon frère a fugué, et alors ?» C'est pas la première fois! Nikki soupira en regardant sa montre. Il y avait un train pour East Hampton dans moins d'une demi-heure, mais c'était le dernier avant 17h30. Enfile ça! Ordonna-t-elle en tendant un casque à sa fille. Mais il n'y a pas de mais. Je suis ta mère, si je te dis de faire quelque chose, tu le fais, c'est tout, et sans discuter. On dirait papa! Se plaignit Camille en s'installant sur la selle à l'arrière de la moto. Et ne m'insulte pas, s'il te plaît! Nikki enfourcha son engin et quitta l'Upper East Side. Elle se laissa glisser le long de Lexington, s'enfonçant à travers les canyons de verre et de béton, roulant aussi vite qu'elle le pouvait tout en restant concentrée sur sa conduite. Surtout, ne pas avoir d'accident, pas maintenant. À cause du divorce, elle avait toujours eu des relations lointaines avec Camille. Elle l'aimait profondément, mais elle n'avait pas eu l'occasion de tisser avec elle une vraie complicité. La faute, bien sûr, aux conditions de séparation absurdes que lui avait imposées Sébastien, mais aussi à cause d'une barrière plus insidieuse. L'honnêteté l'obligeait en effet à admettre qu'elle nourrissait un complexe face à sa fille. Camille était une jeune fille brillante, éprise de culture classique. Très jeune, elle avait dévoré des centaines de livres, vu la plupart des films phares. De ce côté-là, Sébastien l'avait parfaitement élevée. Grâce à lui, elle évoluait dans un milieu privilégié. Il l'emmenait au théâtre, à des concerts, à des expositions. Camille était une bonne gamine, plutôt humble et pas condescendante, mais Nikki se sentait souvent dépassée lorsqu'au détour d'une conversation, elle s'aventurait sur le terrain de la culture savante. Une mère à la traîne, une mère inférieure. Comme chaque fois qu'elle pensait à ça, les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle fit des efforts pour garder son chagrin à distance. À plein régime, elle dépassa Grand Central, lança un coup d'œil dans son rétro avant de déboîter pour doubler un camion de pompiers. Tournis, vitesse, sensation d'écrasement. Elle aimait cette ville autant qu'elle la détestait. Son foisonnement et son mouvement perpétuel la prenaient à la gorge et l'étourdissaient. Minuscule, coincée entre les parois verticales et les tranchées géométriques, la moto fonçait. Sirènes hurlantes, pollution planante, taxis surexcités, klaxons, éclats de voix. Nikki rétrograda, prit un large virage pour rejoindre la 39e, puis se fondit dans la circulation de Fashion Avenue. Les images se succédaient devant ses yeux. Foule agglutinée, bitume fissuré, chariot cabossé des vendeurs de hot-dogs, reflets métalliques des buildings, paires de jambes fuselées affichées en gros plan sur une façade. Débouchant sur Pennsylvania Plaza, elle réussit à intercaler sa moto entre deux voitures. New York était un enfer pour les deux roues. Les chaussées étaient défoncées et on avait le droit de se garer nulle part. « Terminus, tout le monde descend !» Camille sauta sur le trottoir et l'aida à cadenasser la BMW. 14h24. Le train partait dans 10 minutes. « Dépêche-toi, chérie !» Elles traversèrent la rue au milieu de la circulation pour s'engouffrer dans l'immeuble sans grâce qui abritait Penn Station. À en croire les photos d'époque affichées dans le hall, la gare la plus fréquentée des États-Unis occupait autrefois un bâtiment grandiose orné de colonnes en granit rose. Coiffée d'une verrière, sa salle des pas perdus avait la taille d'une cathédrale avec gargouilles, vitraux et statues de marbre. Mais cet âge d'or était depuis longtemps révolu. Sous la pression des promoteurs et de l'industrie de l'entertainment, on avait démoli le bâtiment au début des années 1960 pour y construire un complexe sans âme de bureaux, d'hôtels et de salles de spectacle. Nicky et Camille jouèrent des coudes pour se frayer un chemin jusqu'au guichet. « Un aller simple pour East Hampton, s'il vous plaît. » L'employé, une femme aux allures de Bouddha, mit un temps infini pour éditer le ticket. La gare bourdonnait. Point névralgique du corridor reliant Washington à Boston, Penn Station desservait aussi de nombreuses gares du New Jersey et de Long Island. « 24 dollars, le train part dans 6 minutes. » Nicky récupéra sa monnaie et prit Camille par la main pour l'entraîner au sous-sol où se trouvaient les voies ferrées. Dans les escaliers, les gens se bousculaient. Promiscuité étouffante, cris d'enfants, épaules qui s'entrechoquent, coups de valise dans les genoux, odeur de transpiration. « Quai numéro 12, c'est par là !» Nicky tirait sa fille par la main. Elles remontèrent en courant jusqu'à la rame correspondante. « Départ dans 3 minutes !» annonça le contrôleur. « Tu nous appelles dès que tu es arrivé, d'accord ?» Camille acquiesça d'un mouvement de tête. En se penchant pour embrasser sa fille, Nicky remarqua son embarras. « Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ?» À la fois contrariée d'être prise en faute et soulagée de se délivrer d'un fardeau, Camille finit par confesser. « C'est à propos de Jérémy. Il m'avait fait promettre de ne pas t'en parler, mais tu l'as vu récemment ?» devina Nicky. « Oui, il est venu me chercher samedi à midi à la sortie de mon cours de tennis. Samedi, il y a 3 jours. » Il semblait très inquiet, continua Camille. Très pressé aussi. Il avait des ennuis, c'est évident. Il t'a expliqué lesquels ? Il m'a juste dit qu'il avait besoin d'argent. Tu lui en as donné ? Comme je n'avais pas grand-chose sur moi, il m'a accompagné à la maison. Ton père n'était pas là ? Non, il déjeunait au restaurant avec Natalia. Le train allait fermer ses portes. Les derniers voyageurs couraient pour monter dans les wagons. Pressé par sa mère, Camille poursuivit. « J'ai donné à Jérémy les 200 dollars que j'avais dans ma chambre, mais comme ça ne lui suffisait pas, il a voulu ouvrir le coffre-fort de papa. Tu connais le code ? Mais facile, c'est notre date de naissance !» Un signal sonore annonça le départ imminent. « Il y avait 5 000 $ en liquide, » précisa la jeune fille en sautant dans la rame. « Jérémy m'a promis qu'il les remettrait avant que papa ne s'en aperçoive. » Resté sur le quai, Nicky affichait un visage livide qui inquiéta Camille. « Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose, maman ?» Les portes se refermèrent sur sa question.